France Culture.
France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Marc Floriot, bonsoir. La suite au prochain numéro, nous disaient Pierre Dupriez et Serge Martel, qui nous emmènent cette nuit en plein continent romanesque, celui du roman populaire français. Deuxième étape, après le rocambolesque et ce qui peut se résumer comme un prélude au roman policier dans l'histoire de la littérature, nous passerons ici au roman d'aventure et de cap et d'épée. Cette deuxième de quatre émissions nous mène donc dans un passé un peu plus lointain avec Yves-Olivier Martin dans un instant, puis Roland Stagliati et Patrice Caillot sur Zévaco, Jean Leclerc, Gilles Nelot sur l'identification aux héros et les contextes politiques, Gilbert Sigaud à propos de Dumas père et du roman historique, Jacques Van Herpe enfin et l'importance des éditeurs.
Avec le roman historique et le roman de cap et d'épée, nous abordons une partie spectaculaire du roman populaire. Bien sûr, il y a eu Dumas, qu'on ne saurait passer sous silence, mais la littérature officielle l'a, dirons-nous, quelque peu récupérée. Tout le monde, ou presque, a lu Les Trois Mousquetaires. Moins nombreux sont ceux qui ont lu Les Pardaillans de Michel Zévaco, à moins qu'en cachette on l'ait dévoré sans oser s'en vanter. Nous évoquerons aussi le roman d'aventure qui, durant les belles années du roman populaire, a souvent mené nos arrière-grands-parents au-delà des mers au fil de milliers de pages, pas toujours très bien imprimées, mais passionnantes pour le gamin ou l'ouvrier confiné dans leur quartier que dominaient les cheminées d'usine.
La bataille et l'amour, les chevauchées épiques et les luttes héroïques, et parmi l'étincellement des épées entrechoquées, les ruades des chevaux qui se cabrent, les cris des blessés, les défis des combattants, un grand souffle de tendresse qui passe. Ces œuvres héroïques, qui constituent une étonnante galerie de tableaux pittoresques, nous font revivre les époques les plus nobles de l'histoire de France et du monde. Ces romans sont la parure nécessaire de toute bibliothèque.
Yves-Olivier Martin, à quel moment et avec quel auteur situez-vous les débuts du roman historique dans le roman populaire ?
Le roman historique semble antérieur au roman populaire, puisque déjà, au temps du Premier Empire, avec Madame Cottin, on trouve des romans historiques. Rose d'Albe, et puis les romans historiques du vicomte d'Arlincourt, qui sont aussi contemporains de Napoléon Ier.
Et toujours dans le style roman populaire, facile.
C'est ce qu'on appelle plutôt à ce moment-là le roman gothique. C'est-à-dire, il y a des emprunts au roman noir, il y a la présentation, avant Dumas, ce qui est assez intéressant, par exemple, quand on lit le roman d'Arlincourt qui s'appelle Le Parricide, et qui est une histoire de Charles le Téméraire, mais qui est tout à fait fantaisiste, et on a reproché à Dumas son traitement de l'histoire, alors que chez d'Arlincourt, c'est encore plus flagrant. D'Arlincourt a été aussi célèbre que Dumas en son temps. Ça a été le grand auteur. C'était un auteur monarchiste qui avait commencé d'abord par flatter Napoléon. Il était vraiment le grand auteur des salons. C'était évidemment un auteur assez mondain.
Mais pas très populaire, donc. Alors.
Pas très populaire, non. Pas très populaire, mais on le range quand même dans le roman populaire, puisqu'il y a des excès, il y a les outrances de l'époque romantique, il tire les ficelles. On trouve déjà dans son style ce qu'on va tellement critiquer chez les auteurs populaires, la sueur froide, le masque d'épouvante,
les clichés.
Quoi. Oui. Et puis les situations paroxystiques. Quoi.
Alors, j'ouvre une parenthèse en faisant la remarque suivante, c'est que si on faisait un bilan des auteurs de romans populaires, si on mettait d'un côté les romanciers qui véritablement étaient d'origine populaire ou étaient eux-mêmes populaires et les autres, on serait surpris de voir que la deuxième colonne serait beaucoup plus importante.
Oui, il y a eu des auteurs nés d'origine populaire. Il y a eu par exemple Bouvier, quoi, Alexandre Bouvier, qui était fils d'ouvrier.
L'auteur de La Belle Grêlée en particulier.
La Belle Grêlée, ah ben vous connaissez, oui. Oui, Constant Guéroult était d'origine populaire aussi, il était assez... Oh, il y en a eu d'autres. Je crois que Zévaco était assez... Non, il était d'origine bourgeoise, plutôt, oui. Oui.
Pour Guéroux, ça explique peut-être sa belle envolée lorsqu'il décrit, qu'il justifie l'assassinat des policiers, en particulier dans la bande à Fifi Volard.
Et plus tard, Morphy est d'origine assez mêlée. Son père était plutôt d'origine bourgeoise, mais sa mère était d'origine populaire.
Parmi les romanciers de Cap et d'Épée, en dehors de, bien sûr, de Dumas père, qu'on n'abordera pas très longtemps dans cette émission, parce que la littérature s'en est emparée, en dehors même de Zévaco, qui fera l'objet vraiment d'un chapitre tout à fait spécial tout à l'heure, quels sont les auteurs populaires qu'on peut citer dans la catégorie des romans dits de Cap et d'Épée?
Oh, il y a Amédée Achard, qui a été le grand auteur au temps de Second Empire, et Féval, évidemment, le Bossu. Puis tous ces romans qui sont plus ou moins de Cap et d'Épée, comme La Chevalière, comme le... ces romans historiques autour de Charles Stuart, autour des Chouans aussi, La Louve, Le Loup Blanc, qui sont à la fois des romans Cap et d'Épée, puis des romans bretons. Le cycle breton de Féval est assez de Cap et d'Épée.
Il ne faut pas oublier non plus que Féval était l'auteur d'une chanson royaliste qui était extrêmement célèbre.
Et qu'on a chanté à l'Assemblée, d'ailleurs, pendant les débats de la Troisième République. Et puis, il y a eu un auteur qu'on parle moins, et c'est dommage, et un escapendu, qui est d'ailleurs un des précurseurs du roman policier, et qui a écrit de très bons romans historiques, plutôt maritimes, au temps du Second Empire, le Chat du Bord, la Marie Morgan, et qui raconte surtout les combats sur mer au temps de Napoléon et au temps de la Révolution.
Les romans de Capindu, strictement de Cap et d'Épée, ont été réédités d'ailleurs après 1918 dans la fameuse collection chez Talandi.
Ça a été un des auteurs les plus lus et les plus pastichés, au fond, puisque un de ses héros qui s'appelle Bibi Tapin, qui est un des héros de la fameuse série des aventures de Camparini, a été... pastiché, on le trouve chez D'Henri, mais D'Henri l'appelle Bibi, Tapin aussi, mais c'est une autre histoire. Enfin, c'était un des romans les plus lus.
Et La Doucette, hein?
Edmond La Doucette est né en 1854 à Paris et il est mort en 1910. Et il a fait deux ou trois volumes chez Fayard, d'énormes volumes, Le Masque de Fer, une série de Mignon aussi, il y a eu toute une série autour de Mignon. Il a écrit
La guerre des Camisards.
La guerre des Camisards, qui est un énorme pavé. Et puis, qu'est-ce qu'il a écrit encore? Surtout les histoires de Louis XIV, quoi. Et ça l'intéressait beaucoup. Son grand succès, évidemment, c'est le Masque de Fer.
Roland Stragliati, vous êtes avec nous dans cette série des maîtres du roman populaire pour nous parler du romancier Michel Zévaco, qui a passionné tant de générations. Mais je pense qu'avant d'en arriver à l'œuvre romancée de Michel Zévaco, il est important de parler de l'homme, du journaliste et de l'anarchiste aussi, je crois.
Oui, bien sûr, mais je crois que Patrice Caillot le ferait beaucoup mieux que moi et je lui cède la parole.
Eh bien, Michel Zévaco, avant de devenir le romancier populaire que tout le monde connaît, a été un journaliste engagé, socialiste, puis anarchiste. Il a commencé à écrire dans la presse socialiste en 1889. En juillet 1889, très exactement, à la veille des élections législatives du 22 septembre, qui ont vu la défaite du Parti boulangiste. Et il écrivait alors dans un journal socialiste quotidien qui s'appelait « L'égalité » et qui avait été fondé par Jules Roch, qui est plus connu comme le directeur du Courrier français et comme personnalité montmartroise. Jules Roch était un osseur bien parisien, un viveur, et tout le monde était fort surpris de le voir prendre la tête d'un organe socialiste. Et il devient l'homme à tout faire à l'égalité. Roch se désintéressant de plus en plus de son journal, préférant ses parties fines ou organiser les bals du Courrier français. Très important, les bals du Courrier français dans la vie parisienne de l'époque. Et Zévaco devient en fait le directeur, le secrétaire de rédaction, le rédacteur en chef. Il fait tout à l'égalité et il n'est pas très doué pour la gestion. Et il accélérera la chute de l'égalité qui n'avait déjà pas beaucoup de lecteurs. En 92... il est anarchiste et il publie un hebdomadaire lui-même, un hebdomadaire qu'il a fondé, dont il est le rédacteur en chef, qui s'appelle Le Gueux. Et le numéro 1 paraît le 27 mars 1892. Mais le 27 mars 1892, c'est également le jour où explose une bombe de ravachol chez le président Benoît. Nous sommes en pleine période d'attentats anarchistes et la répression va s'abattre sur la presse anarchiste. Et évidemment, Le Gueux n'aura qu'un numéro. Et il ne renonce pas pour autant. Et il écrit dans L'Éclair, le quotidien L'Éclair qui venait d'être fondé et qui n'était pas encore l'organe réactionnaire qui deviendra entre les mains d'Ernest Judet. C'était un quotidien qui, ouvert à toutes les tendances, très libéral. Et il publiera anonymement, tout d'abord, des articles d'information pure sur le mouvement révolutionnaire, le mouvement anarchiste. Et puis surtout, il écrira une lettre ouverte au directeur de L'Éclair. Et cette lettre ouverte est une véritable profession de foi anarchiste. Il y fait l'apologie de la reprise individuelle. Il célèbre les agissements d'un anarchiste italien, Pini, qui a entrepris... C'était un voleur, mais un voleur anarchiste, Pini. Il faisait la reprise individuelle. Il célèbre également la propagande par le fait, c'est-à-dire les attentats. Bref, là, il se compromet définitivement. On ne peut plus avoir de doute sur l'évolution de ses idées. Pas de doute, il est anarchiste. 98, fin 98, 99, c'est le plus fort de l'affaire Dreyfus. C'est là que les passions se déchaînent. La France est divisée en deux camps. Il y a d'une part les réactionnaires, le clan militariste, antisémite et nationaliste. Et d'autre part, il y a un premier phénomène d'union qu'on peut appeler d'union de la gauche, où anarchistes, socialistes, toutes les fractions socialistes se réunissent pour lutter contre le péril réactionnaire. Et Zévaco, lui, donc, fonde l'anticlérical, qui ne dure pas longtemps également, il dure simplement 2 mois. Mais il a quand même le temps d'y lancer une campagne pour l'érection d'une statue au chevalier de la barre. C'est la statue qui sera en face du Sacré-Cœur plus tard, et c'est Zévaco qui est à l'origine de cette statue. Mais il y a beaucoup plus important, c'est que début 99, Sébastien Faure fonde un quotidien. Un quotidien qui s'appelle le Journal du Peuple, un quotidien qui ne durera que 10 mois. C'est dans ce journal qu'il donnera son premier roman historique.
Et c'est lequel ?
Et c'est un roman que personne ne connaît puisqu'il n'a jamais été édité en volume. Il s'appelle, bien sûr, Le Chevalier de la Barre. Et c'est un roman anticlérical, c'est même un roman d'un anticléricalisme frénétique. C'est une erreur judiciaire. C'est une victime du parti prêtre. On ne pouvait pas faire le rapprochement avec cette autre victime du parti prêtre et réactionnaire qui était Dreyfus. Bref, c'est un roman qui, sous ses dehors de roman historique, traite de problèmes tout à fait brûlants et très contemporains.
Et c'est à ce moment-là, alors, qu'il va prendre la décision de se tourner vers le roman de KPDP.
Peut-être. Et puisque en 1900, il donnera son premier grand roman à la Petite République française, ce qui était devenu d'ailleurs la Petite République socialiste depuis que le journal avait été racheté par Millerand et ses amis. Et il retrouvera d'ailleurs là Géraud Richard, Jean Jaurès et tous les gens qu'il avait connus, soit à Sainte-Pélagie en prison ou bien en réunion publique ou au Journal du Peuple.
Il n'a pas écrit pendant longtemps, Zévaco, parce qu'il est mort en 1918,
Il est mort le 8 août 1918. Donc sa carrière de romancier populaire, c'est donc entre 1900
et 1918. Et il a écrit, peut-être il faudrait demander ça à Roland Spagliati, combien de romans en tout, à peu près.
Écoutez, si on compte dédoublant, parce que certains de ses romans faisaient de volume.
Oui, de volume.
Je crois, Caillot, qu'il a écrit environ entre 35 et 40 volumes. Il me semble bien
d'avoir fait le compte. Ce sont les dédoubles.
Il y en a qui sont en un seul volume,
oui.
D'autres qui sont en deux volumes. Et sont les dédoubles, ça approche la quarantaine, disons.
Et oui. Est-ce que ces romans historiques couvrent une période délimitée de l'histoire de France ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a commencé, mettons, sous François Ier et terminé sous Louis XIV, par exemple ?
Mais écoutez, il a commencé avec Borgia. Et le dernier, du reste, qui ne doit pas être... Les derniers romans de Zévaco d'après ce que l'on sait, la fin de Pardaillan, la fin de Fausta, la grande aventure ne sont visiblement pas de lui.
Oui, la fin de Pardaillan est apparue dans le matin en 1925.
Oui. Ah, oui. Elles sont de son frère Alexandre Zévaco, qui signait avec l'accord de la famille, du reste c'est à Caillot que je dois ce détail, il avait comme pseudonyme Michel Zévaco. Enfin,
ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, oui. Prendre pour pseudonyme le patronyme d'une personne venant d'exister.
Oui, ça c'est assez extraordinaire. La famille était d'accord, du reste elle a été d'accord sur bien des choses, sur toutes les éditions coupées depuis, salopées, et même celle au fond du livre de poche qui est coupée sans raccord, et c'est très visible. Souvent.
Mais il n'est pas exclu que du vivant de Michel, Alexandre ait collaboré avec lui.
Ça reste possible. À établir. Oui, c'est possible, parce que dans les derniers volumes, spécialement la fin de Pardaillan et la fin de Fausta, on retrouve quand même par moments ce côté flamboyant. Enfin, ça a l'air un peu pastiché, mais c'est quand même très évaquien, si je puis dire.
Hein? Roland Stragliati, Jacques Duclos a un jour déclaré, dans une interview à Pierre Dupriez, qu'il aimerait lire une histoire de France écrite par des écrivains comme Dumas et Zévaco.
Oui.
Que pensez-vous de cette façon de traiter l'histoire de France, par exemple, de faire tuer le duc de Guise par Pardaillan? Ah bah, ou bien de faire tuer en tournoi Henri II par Bourvers et non pas par Montgomery.
Oui. Mais je crois qu'on aurait une vision de l'histoire de France absolument déformée, mais qui gagnerait peut-être sur le plan poétique. C'est possible. Mais vous savez, au fond, Zévaco, il a un ton qu'on retrouve évidemment chez Hugo et chez Michelet. Il doit aux deux, il leur doit énormément. Hein?
Qu'est-ce qui fait le charme extraordinaire de Zévaco, au point qu'on réédite encore maintenant? Le livre de poche vient de sortir une nouvelle édition, sans doute un peu allégée, oui. Dirons-nous, des romans de Zévaco. Ça tient à quoi, à votre avis? C'est un phénomène assez extraordinaire, quand même.
Eh bien, c'est difficile, enfin, de dire à quoi ça tient, mais je crois, pour moi, c'est une vieille tarte à la crème. Ce que j'ai toujours cherché dans le roman populaire, et ce que je crois qu'inconsciemment tout le monde cherche, c'est non seulement l'évasion, mais une certaine forme de poésie, car je crois que inconsciemment tout le monde est avide de poésie. Et chez Zévaco, c'est présent, alors qu'il y a des romanciers populaires chez qui ça n'existe absolument pas. Hein. Je crois que c'est ça. Et puis alors, cette espèce d'allant, ce brio, ce côté, enfin, pas cavalcadant, mais enfin ce côté qu'on trouve chez Michelet et chez Hugo. Hugo est très populaire, mais enfin, ce sont pas des auteurs baroques, mais il y a un côté flamboyant chez Zévaco, incontestablement, et je crois qu'inconsciemment, on l'est amené vers ce genre-là.
Vous croyez donc, comme Simone Veil, que le peuple, en définitive, est plus avide de poésie que de pain?
Ça, je crois. Non seulement je le crois, mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Il y a des scènes très belles, par exemple les noces vermeilles dans Pardaillan, c'est-à-dire le mariage de la reine Margot, enfin qui n'était pas la reine, pas, avec Henri de Navarre. Tout d'un coup, ça prend une ampleur. Et au fond aussi, la Saint-Barthélemy est un morceau absolument extraordinaire chez lui. Quand Fausta, dans les Pardaillan, se rencontre à un moment qu'elle aime Pardaillan, et Pardaillan se rencontre de la même chose sur le bord de la Loire, tout d'un coup, il y a une espèce de lyrisme où il atteint vraiment la qualité de grand écrivain. Il est courant de dire que dans ses romans, sur le côté anarchiste a été gommé, a disparu, qu'il avait un peu renié ses opinions de jeunesse. Ça n'est absolument pas le cas, car on a l'impression, surtout dans Pardaillan, qu'il a toujours ces mêmes opinions. Pas une fois, il les a reniées. Et le plus curieux, c'est qu'il a publié ça dans Le Matin, qui était un journal, ne disons pas réactionnaire, mais centriste, et chez le père Fayard, qui était un éditeur monarchiste.
Oui, Jean-Paul Sartre a salué en Zévaco l'inventeur du roman de cap et d'épée républicain, mais c'est bien peu dire, car à maints égards, Pardaillan est un héros libertaire.
Oui.
Par son mépris des hiérarchies, de toutes les formes de l'autorité, et par la façon dont il traite les grands de ce monde, et il n'épargne personne, même le bon roi Henri, qui en prend également pour son grade.
Oui. Du jour où il a été romancier, il n'a absolument pas fait autre chose, sauf à la fin de sa vie, un film comme metteur en scène.
J'allais vous en parler, ouais. Roland Stragliati, parce que vous êtes aussi un homme de cinéma, et on a parlé de Michel Zévaco comme cinéaste également. Il a écrit ou mis en scène, je crois.
Il a écrit et mis en scène un film qui s'appelait Déchéance, et dont Caillot pourra vous résumer peut-être l'action en quelques mots.
Ma foi, non. Disons que c'est un mélodrame bourgeois à la manière de Priolet. Et justement, le producteur du film était Maxime Latour, c'est-à-dire Julien Priolet, le frère de Marcel. Oui. Et il semble que Zévaco se soit conformé au canon de la littérature des Priolet pour son premier scénario.
On a parlé d'un très grand lancement publicitaire à propos de ce film en son temps.
Oui, il avait été lancé. Il a été lancé par Pathé, qui distribuait le film. Il a bénéficié d'un lancement publicitaire relativement important, si on tient compte de l'époque, puisque c'était en pleine guerre. Le film est sorti en octobre 1918. Et Zévaco n'a donc pas pu voir son film projeté en public.
Je vous propose, pour rendre hommage à Zévaco, d'écouter maintenant la mort du duc de Guise, lequel duc de Guise sera tué par Pardaillan.
Bien entendu.
Moi, j'ouvre la porte quand il arrive. Toi, Chalam, tu te tiens ici, au milieu du cabinet.
Oui.
Toi, Montsiri, tu te places ici, contre la porte.
Bien.
J'ouvre et je dis « Entrez, monseigneur ». Et je recule. Il entre. Alors toi, Montsiri, tu pousses la porte et tu mets le verrou. Chalabre et moi, nous l'attaquons par devant, et toi, tu sautes sur lui par derrière. Est-ce convenu ?
Convenu, oui.
Chacun à notre place, donc, et ne bougeons plus.
Et la porte du petit escalier ?
Mais il n'y a qu'à pousser le verrou. Vas-y, Chalabre.
Oui. Bonjour, messieurs. Pardaillan.
Monsieur, sortez à l'instant. Quoi que vous ayez à nous dire, il nous est impossible de vous écouter en ce moment.
Ah, avant que le balafré n'entre ici, nous avons bien quelques minutes.
Comment vous savez ?
Messieurs, laissez vos poignards. Si vous m'attaquez, je suis capable de vous tuer tous les trois. Et alors, vous ne pourrez pas tuer le duc de Guise. Et si je n'arrive pas à vous tuer, je pourrai toujours ouvrir cette fenêtre et jeter un cri qui sera entendu parce qu'il est attendu. Et alors, messieurs, quelqu'un se précipitera au-devant du balafré et lui criera « N'entrez pas au château, car on veut vous tuer. »
Mais parlez donc. Que voulez-vous ?
Messieurs, vous me devez encore une vie. Je viens vous réclamer le paiement de votre dette. Je viens vous demander cette vie.
La vie de qui ?
La vie de Henri de Guise.
Non ! Ce n'est pas possible.
Messieurs, je vois que vous êtes décidés à payer. Mais je vois aussi que c'est trop vous demander. Je vous propose donc un arrangement. Je ne vous demande que 10 minutes de cette vie.
Comment cela ?
Oui, je veux dire quelques mots au duc de Guise. Cet entretien durera 10 minutes. Après quoi, je vous tiendrai quitte. Le duc va entrer ici, n'est-ce pas ?
Oui.
Vous admettez qu'une fois entré, il ne peut plus sortir par l'antichambre ?
Oui, mais il peut sortir par le petit escalier.
Eh bien, justement, vous allez vous placer tous les trois dans le petit escalier. Donc, toute retraite est coupée. Et... c'est lui. Sortez, messieurs. À la 10e minute au plus tard, Guise vous appartiendra. Mais pendant ces 10 minutes... il est à moi. Allez.
10 minutes.
Pas une de plus.
Dans le cabinet, monseigneur. Sa Majesté vous attend dans le cabinet.
Mais ! Inutile d'insister. Elle ne s'ouvrira pas.
Qui êtes-vous ?
Que voulez-vous ?
Que faites-vous là ?
Mon nom est inutile. Vous me reconnaissez. Je suis celui qui, dans la cour de l'hôtel Coligny, voici 16 ans de cela, vous a souffleté. Je suis celui qui, sur la place de Grève, voici 8 mois de cela, vous a crié devant 10 000 personnes que vous vous appeliez Henri le Souffleté et non Henri le Balafré.
Enfer !
Je suis celui qui, dans la rue Saint-Denis, pour sauver une pauvre femme, s'est rendu à vous. Celui que vous avez appelé lâche. Celui qui vous a déclaré alors qu'il vous rentrerait ce mot dans la gorge et que vous ne péririez que de sa main. Henri de Guise. Henri le Souffleté. Ce que je veux, ton sang pour laver l'insulte. Henri de Guise, assassin de Coligny et de tant de malheureux seigneurs, ce que je fais ici, je t'y attends pour t'offrir un combat loyal, épée contre épée, dague contre dague, cœur contre cœur.
Vous êtes fou, mon maître ! Holà du monde pour arrêter ce fou !
Eh bien, monsieur, il ne vous reste qu'un espoir. c'est de sortir par cet escalier en tuant les trois gentilshommes qui vous y attendent, après m'avoir tué moi-même, toutefois. Décidez, je vous offre le combat loyal. Si vous refusez, j'ouvre ces portes, je laisse entrer les bandes d'assassins et je leur crie « Tuez cet homme ! Il est trop lâche pour se défendre.
C'est un guet-apens ! » !»«
Oh, je n'en fais pas partie. » Allons, monsieur. Choisissez. Eux ou moi.
Tiens, mère !
Voilà, monsieur, comme vous y allez. Messieurs, les 10 minutes ne sont pas écoulées. N'importe, vous pouvez entrer. Je vous tiens quitte de votre dette. Je vous rends le duc de Guise.
Il nous l'a tué, ce diable d'homme.
À moi, on me tue.
Achève.
On a l'habitude de penser que le roman de Cap et d'Épée est un roman absolument anodin et qu'on n'y trouve pas peut-être le reflet de certains soucis d'ordre social. Et il me semble, Jean Leclerc, qu'à propos d'un grand roman historique, puisqu'il couvre 25 volumes, je veux parler des Carreaux coupe-têtes de Maurice Landais, vous avez eu des mots à propos du héros. Oui. Carreaux coupe-têtes, vous l'avez défini d'une certaine façon et je me demande si tous les lecteurs ont compris ce qu'était Carreaux coupe-tête.
Écoutez, vous posez deux questions différentes. Le roman historique, qu'était-il pour le populaire? Première question. Et deuxièmement, le cas spécifique de Carreaux coupe-tête de Maurice Landais, bien sûr. Eh bien, il faut bien comprendre combien la vie était triste et malheureuse pour un homme jeune au XIXe siècle et même jusqu'en 1914. Mon père est mort à la guerre de 18, ma mère s'est mariée avec un homme qui, en 1913, s'est engagé, il était ouvrier du textile, il s'est engagé tellement c'était, il a engagé militaire, et du coup ça lui a fait faire je ne sais combien d'années, mais il s'est engagé parce que la vie d'un ouvrier textile était affreuse, même jusqu'en 1914. Et la vie d'un ouvrier est toujours affreuse. C'est un homme sacrifié à un métier précis, à des tâches constante, être toujours plié ou être toujours. Et alors, il cherche quoi? L'évasion. Alors, il y a plusieurs formes d'évasion. Il y a les costauds qui n'hésitent pas à aller aux colonies. Il y a Rimbaud qui va en Éthiopie. Il y a d'autres qui vont en Amérique. Il y en a d'autres qui s'évadent d'une manière beaucoup plus lâche. Ils vont au bureau de recrutement et signent un engagement pour la Légion ou pour les troupes coloniales. Ils sont embarqués pour 305 ans. Dans une aventure mesurée et cadrée, canassée. Mais la multitude, la majorité, ne peut pas s'évader comme ça, n'ose pas s'évader. Moi, j'ai tenté plusieurs fois de m'évader, j'ai dû revenir, j'étais trop faible pour pouvoir faire quelque chose. Et alors, il y a l'évasion par le rêve, l'évasion par la lecture. Et nous avons deux sortes d'évasion. L'évasion par le roman historique ou l'évasion par le roman exotique. Et dans le roman historique, on s'incarne au héros qu'on lit, on les voit suivre le héros, on vit sa vie. Dans le roman exotique, roman d'aventure à travers le monde aussi. Mais toujours, le lecteur populaire, l'ouvrier, ou l'artisan, ou le pauvre diable, cherchera dans ses lectures d'évasion deux choses. Deux. Premièrement, le dépaysement, l'évasion, et aussi la réalisation d'un triomphe. Il est enserré, il n'est rien, mais pardaillant, il va vaincre les nobles, il va vaincre les rois. Par Nostradamus, il triomphera des reines en leur prédisant la bonne aventure. Par n'importe quoi, il triomphera. Et aussi dans l'aventure exotique. Alors là, par-delà les mers, boucaniers, flibustiers, trappeurs, il va sauver les Indiens, il va sauver les jeunes filles en détresse, il défendra la justice, Dans tous ses romans exotiques, le lecteur populaire cherche à s'évader et à retrouver la justice. Au commencement était la justice.
Vous vous êtes donc identifié à un certain moment au héros Caro Coupe-Tête dont je parlais il y a un instant.
Je me suis identifié jeune, maintenant non. Maintenant j'ai trop de recul, hélas. Mais jeune, j'ai vécu leurs aventures parce que j'ai beaucoup d'imagination et je m'incarne. J'ai fait du théâtre d'ailleurs à réaction avec les Autant Lara. Je m'incarne dans les personnages. Je me suis incarné dans Fantômas et j'ai assassiné avec plaisir. Et dans Caro Coupe-Tête, je me suis figuré que j'étais à la Révolution française et que j'incarnais Caro Coupe-Tête. C'est le peuple. C'est le peuple parce que le roman est à clé, à mon avis. Je ne sais pas si Maurice Landais a véritablement fait un roman à clé. J'ai rien lu de Maurice Landais, de point de vue souvenir ou confession. Mais j'ai compris que Caro Coupe-Tête, c'est le peuple, et Déblis, donc du diable, naturellement, lui représente l'oligarchie. L'oligarchie, sous toutes ses formes, il est avec, naturellement, l'Église.
Vous dites très précisément, et ça nous a fait rire, et peut-être aussi un peu plaisir, vous dites de Déblis que c'était le maître d'un grouillement de frocard.
Ne fait qu'incarner l'oligarchie exploiteuse, la réaction.
La période trouble et agitée de la Révolution française et des années qui suivirent fut pour les romanciers populaires une mine inépuisable. Maurice Landais l'exploita de bout en bout dans les 25 volumes qui constituent la fameuse série des Caro Coupe-Tête. En voici un extrait qui a pour cadre Paris sous la terreur. Comtesse, préparez-vous en hâte et suivez-moi.
Prends-t-il, marquis ? Pourquoi c'était moi ?
Votre femme de chambre nous a trahis.
Christine ? Vous êtes fou.
Je suis si peu fou que je vous annonce l'arrestation de tous nos amis qui n'ont pas reçu à temps votre message, les prévenant de quitter à l'instant la maison d'Auteuil.
Cela est impossible. Christine devait remettre ma lettre à Ducormier. Comme elle ne connaît pas le marquis d'Enneville, j'ai pensé qu'il était plus prudent.
D'Enneville n'a rien reçu et il est à cette heure en prison avec tous nos amis.
Oh mon Dieu, pauvre marquis.
S'il ne s'agissait que de celui qu'on appelle le chevalier Bel Amour, je vous prie de croire, comtesse, que je ne perdrai pas mon temps à m'attendrir sur ce brouillon qui a compromis et perdu tous ceux qui ont eu le malheur d'être en rapport direct avec lui.
Marquis, vous oubliez que d'Enneville...
Je n'oublie rien du tout. La preuve, c'est que ne pouvant sauver nos amis, je viens vous sauver, vous.
Mais je n'ai rien à craindre. Puisque Christine a pu remettre ma lettre, elle me la rapportera demain. C'est la seule chose qui pouvait me compromettre. Je n'ai rien à craindre, vous dis-je, et vous remercie de votre zèle importun. Je resterai ici. Et puisque Denville est en prison, je vais m'employer à l'en tirer.
Denville, toujours Denville! Mais canon ce Bel Amour pour ensorceler ainsi toutes les femmes.
Il s'est usé envers elle de procédés et d'égards qui ne sont pas les vôtres.
Bon, je ne perdrai pas mon temps à vous convaincre. Fasse le ciel que vous n'ayez pas à vous repentir de cet étrange aveuglement. Sauvez Bel Amour, si le cœur vous en dit. Moi, je vous affirme que vous ne le sauverez pas et que vous irez le rejoindre. Je suis aussi convaincu de cela que je le suis de sauver Monsieur de Morvillers, sa fille et nos amis. Ils ne verront pas la fin de la semaine et seront exécutés après un jugement de pure forme.
Alors il faut se croiser les bras et aller se promener devant l'échafaud pour assister à leur dernier moment.
Non, il faut les considérer comme morts et les venger.
Les venger. Et que ferez-vous ?
Je pars demain pour la Vendée qui tient tête victorieusement aux armées de la République. Le pays s'agite, nous pouvons être vainqueurs. Dans tous les cas, si nous sommes vaincus, si nous mourons pour notre roi, ce ne sera pas sans avoir fait subir à nos ennemis d'irréparables pertes. Cela vaut mieux que d'attendre ici la mort sans chercher à se venger et immoler le plus grand nombre possible d'ennemis. Comtesse, croyez-moi, venez chez moi, et demain nous partirons pour la Vendée.
Je reste à Paris. Si Denville meurt, je mourrai.
Hélas, j'ai bien peur que vous ne soyez une nouvelle victime de Bel Amour.
Que voulez-vous dire ?
Qu'il est homme, si cela est possible, à se sauver tout seul. Et si vous vous occupez de son salut, vous risquez de le perdre et de vous perdre aussi. Bon, venez, comtesse, l'heure s'avance. Si par hasard la fameuse lettre avait été prise à votre soubrette, on viendrait vous arrêter. Allons, venez.
Non, je ne crains rien. Et quoi que vous pensiez, je reste à Paris. J'ai de l'argent, des amis. S'il le faut, j'irai voir les républicains qui sont les maîtres des prisons.
Et vous pensez que séduits par votre joliesse, captivés par votre sourire, ils s'humaniseront et trop heureux de vous obliger, vous feront cadeau de la vie de Denville.
Pourquoi pas ? Un sourire est un argument parfois irrésistible.
Pas pour ces hommes-là. Ils vous demanderont plus qu'un sourire, plus qu'un baiser.
Oh, ils n'oseraient pas.
Oh, ils oseront. Et vous, terrorisé, affolé, croyant que la grâce de Denville est au bout, vous accepterez le hideux marché. Le cœur brisé, votre cerveau en démence, soulevé d'un horrible dégoût. Et quand vous aurez cédé, vous serez chassé avec des insultes, des rires méprisants, bafoués et sans doute emprisonné.
Mais c'est épouvantable. Ce sont des mœurs de cannibales, je n'aurais jamais cru. Oh, je ne vais pas dormir de la nuit, vous savez. Oh, 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 Marquis, quelles horreurs! Voulez-vous une tasse de café? Asseyez-vous près de moi. Voyons, mon cher ami, vous exagérez. Aucune femme de notre monde n'a consenti...
Il se passe d'étranges choses dans les prisons, et qui ne sont pas à l'honneur de la noblesse. Il est vrai que nul de nous, quelles que soient ses erreurs, ne s'est du moins comporté avec faiblesse devant l'échafaud. La mort purifie tout et fait oublier bien des choses. Adieu, puisque vous ne voulez pas me suivre.
Vous me quittez déjà?
Oui. Oh, tiens, mais voilà le chien de Madame d'Estrange. Ce bon Titus, il est tout à fait rétabli à présent.
Oui, mais il est bien laid dans un appartement. Mmh. Quelle idée a eu Olympe de s'embarrasser de cet affreux animal?
Elle avait ses raisons.
Oh, mais c'est affreux.
Oui, quoi donc?
Ce chien.
Eh bien.
Si Olympe est en prison, si elle meurt, que vais-je faire de cette horrible bête?
Oh, mais qu'à cela ne tienne, comtesse. Je le prends avec moi et l'emmène en Vendée.
Oh, que vous êtes charmant.
N'est-ce pas, hein? Que voulez-vous? Il faut faire quelque chose pour ses amis. Vous, vous restez à Paris pour achever de perdre Denville, et moi, j'emmène ce chien qui, lorsque vous serez arrêté et conduite à l'échafaud, se trouvera sans maître.
Oh.
Oui, hein? Adieu, comtesse. Allons, viens, Titus. Allons, viens. Ah. Allez, viens. Viens.
Gilles Nello, vous êtes romancier et aussi auteur du panorama du roman historique. Et de plus, vous m'avez dit tout à l'heure avoir appris à lire à l'âge de 4 ans dans Les Trois Mousquetaires.
C'est exact. Mon père possédait une édition des Trois Mousquetaires, et de 20 ans après d'ailleurs, qui était illustrée par les photos du premier film muet qui avait été tiré donc en épisode des Trois Mousquetaires. Et comme je ne pouvais pas lire à ce moment-là, je ne savais pas lire, j'étais trop jeune, mon père me racontait le livre d'après les images. Je me demandais ce qui se passait. Alors, comme je devenais lassant, disons, j'en redemandais trop, il m'a appris à lire les sous-titres des photos, qui étaient en italique. Alors j'ai appris à lire ça, et puis j'ai dit, ben, je voudrais bien lire le reste. Et ça, c'était encore une autre forme de graphie. Ça fait que j'ai appris à lire comme ça. Et quand je suis arrivé à l'école, je suis rentré le premier jour, et je dis, l'instituteur, il ne sait pas écrire. C'est pas du tout comme tu m'as appris.
Voilà un très bon démarrage. Et ceci nous permet de vous demander, comme à tous nos invités, quelle est votre définition du roman populaire?
Bien, la définition du roman populaire, pour moi, c'est un roman écrit pour le peuple, le mot l'indique, qui veut lire vite, qui veut lire sans effort, qui veut lire pour se distraire. Et pour cela, le roman populaire ne doit pas être mal écrit, mais peut être mal écrit. Voilà la nuance. En outre, il faut qu'il intéresse, qu'il accroche son lecteur. De plus, il faut que les épisodes soient assez nombreux, et ça peut amener évidemment des invraisemblances. Et enfin, on en arrive chez le lecteur à acheter la collection plutôt que l'auteur. Hein, voyez Talandier, livre populaire, ces histoires-là, Juvin, Dadis.
On est sûr de ce qu'on va y trouver.
Oui, on savait ce qu'on allait y trouver. Et le snobisme, disons, de l'élite, je mets le mot entre guillemets, méprise bien entendu le roman populaire actuellement. Et là-dessus, je peux répondre tout simplement, je me demande pourquoi un roman ne pourrait pas être un délassement plutôt qu'un casse-tête.
Gilles Nello, de Paul Féval, dont nous avons par ailleurs abordé Le cycle des habits noirs, il existe aussi un roman très connu du grand public qui s'appelle Le Bossu, son fameux Bossu.
Oui, son Bossu qui est paru en 1857 et que, pour ma part, je considère comme un chef-d'œuvre. Je n'oserais même pas dire que c'est un roman populaire. C'est la faute de Féval que c'est devenu un roman populaire. C'est lui qui l'a appelé un roman de KPDP. Normalement, ce roman, si vous voulez le lire, en détail, vous ne pouvez pas y retrouver les caractéristiques tout à fait nettes du roman populaire, si ce n'est un certain intérêt. Mais ce n'est pas parce qu'un livre est intéressant qu'il est populaire. Hein? C'est un roman qui démarre véritablement sur des chapeaux de roue. Quand vous avez les premières scènes de Nevers et de Lagardère se rencontrant dans les fossés de Quélus, c'est pas l'attaque des brigands, des anciens maîtres d'armes, etc., pour tuer Nevers d'abord, et puis pour enlever la fille de Nevers, et que vous avez la défense, donc, par Lagardère, eh bien, ça, c'est un départ en 100 pages, comme on en fait très peu. Il y a, dans le style, par exemple, de Féval, des définitions qui sont typiques. J'en prends une ici. C'était Lagardère, le beau Lagardère, le casseur de tête, le bourreau des cœurs. Il y avait là 16 épées de prévôt d'armes qui n'osaient pas seulement sortir du fourreau, 16 spadassins contre un jeune homme de 18 ans qui souriait, les bras croisés sur sa poitrine, mais c'était Lagardère. Tout est dit, enfin. Notez que ce bossu a remporté un tel succès que le fils de Paul Féval a voulu continuer les aventures du bossu et tout simplement a supprimé la dernière scène du bouquin de son père.
Alors, Gonzague vit toujours.
Gonzague vit toujours, il est filé en Espagne, il a gardé à court derrière. Hein, et bon, je ne raconte pas toutes ces histoires-là, et finalement, au bout de 2 volumes, on finit tout de même par tuer Gonzague dans les mêmes circonstances, mais on a eu 2 volumes de plus qui sont nettement moins bons.
Dites-moi, Gilles Nello, et en dehors du bossu, quels sont les autres romans de Paul Féval qui sont dignes d'intérêt ?
Mais dignes d'intérêt, c'est beaucoup dire, parce que pour moi, Féval est l'auteur d'un livre, du bossu précisément. Le restant, mon Dieu, il a vécu un petit peu sur sa lancée, et il y en a un qui a eu du succès à l'époque, qui a même été mis au théâtre lui aussi, comme le bossu, avec la collaboration d'Anis Sebourgeois, et qui s'appelle « Le capitaine fantôme ». Il date de 1861, celui-là, alors que le bossu datait de 57. Ce livre, pour moi, est une cochonnerie littéraire. Le démarrage est mauvais. Il lui faut, sur 574 pages, 173 pages de récit initial que fait un soi-disant courrier, disons un espion, dont on ne sait pas s'il sert la France ou s'il sert l'Espagne ou s'il sert les Anglais, on ne sait pas très bien, enfin il sert tout le monde, en réalité il sert vraiment la France, et il lui faut 173 pages pour raconter ce que c'est que le capitaine fantôme. Ben ça, c'est pas bon, ça c'est le premier défaut. Ben, alors, on trouve des défauts au point de vue stylistique qu'on ne trouvait pas dans le bossu, qui, je le répète, est bien écrit. On trouve, par exemple, l'expression « tout uniment », 50-60 fois en 100 pages. Oui. Là, vous trouvez l'horreur qu'on enseigne à ne pas faire dans les écoles, le mot « alternative » qu'il prend pour une seule voix au lieu de deux. Oui. Des trucs de ce genre-là, je ne veux pas exagérer, bien entendu. Mais il y a une chose curieuse, c'est qu'il a repris un personnage qui est aussi un bossu dans « Le capitaine fantôme ». Il s'appelle El Gibose, donc le bossu espagnol, et qui n'a pas le caractère de Lagardère, mais enfin qui est une sorte de deus ex machina, n'est-ce pas, qui aide le héros César de Chabanel, qui est allié à une famille espagnole, les Cabanil, c'est simplement le même nom, mais une partie qui a émigré en France, l'autre qui est restée en Espagne, etc. Enfin, il y a là un bossu qui est assez curieux. Bon, autres horreurs, les trucs habituels depuis le théâtre grec, les substitutions d'enfants, la croix de ma mère, qui permet de retrouver, n'est-ce pas, et qu'on retrouve dans Hugo, malheureusement aussi, les gitans, les cavernes où l'on se cache, les anciens bâtiments dont on ne connaît pas les couloirs.
Tous les thèmes bateaux.
Vraiment, tous les thèmes rebattus sont retrouvés là-dedans. Et alors, il y a dans ce capitaine fantôme des choses assez curieuses. Il y a des avis de Féval qui reparaissent assez souvent, et trop souvent, parce qu'il coupe l'action, et qui sont très longs, ce qu'il n'a pas fait dans le bossu, et notamment où il exprime sa haine des Espagnols, des Anglais, des Portugais, des Gitans. Bon, il n'y a vraiment que la France et un petit peu l'Écosse qui trouve grâce à ses yeux. Enfin, c'est pas. Les digressions sont infinies, elles sont longues, elles sont nombreuses. Enfin, vraiment, c'est un roman qui ne tient pas. Et pourtant, Féval prétend avoir entendu raconter l'histoire en Espagne lors d'un de ses voyages et termine son bouquin en disant « Je ne vous dirai pas qui sont les deux familles françaises actuelles qui descendent des Chabaneilles, mais vous pouvez savoir qu'à Paris maintenant, etc., etc. » Et il s'appelle, trois petits points, de Chabaneilles.
Conclusion, toute vérité n'est pas bonne à dire.
Non, vraiment.
Pierre Dupriez, par ailleurs, a souligné l'importance du cadre révolutionnaire dans le roman populaire. Et vous, Gilles Nello, vous avez particulièrement étudié les chouans dans le roman historique. Y a-t-il beaucoup d'œuvres appartenant au domaine populaire qui traitent de ce sujet ?
Mais il y en a tout de même quelques-unes. Je vais vous citer les premières en disant très peu de mots. Il y a les chouans et bleus de Paul Féval, où Paul Féval se présente, bien entendu, comme étant partisan des chouans. C'est un Breton, il est né à Rennes, et où on retrouve d'ailleurs des pseudo-chansons chouannes que
Paul Féval
a inventées toutes pièces. « Prends ton fusil Grégoire et ta gourde pour boire, prends ta vierge d'ivoire, ces messieurs sont partis pour chasser la perdrix, etc. Bon, » on peut continuer comme ça. Vous avez alors, dans le roman populaire aussi, il y a Dumas qui a écrit « Blanc et bleu ». Mais ce blanc et bleu, chose curieuse, est très mal construit. Il est très mal construit parce que Dumas, il fait intervenir d'abord des souvenirs de l'armée du Rhin, puis la chouannerie, puis il file à Saint-Jean d'Acre, et puis il présente Naudier dans la première partie, l'auteur Naudier, et puis il disparaît, le brave Naudier, on ne sait pas pourquoi. On a l'impression d'un truc qui...
Il avait réuni des fils,
oui,
il n'a pas suivi jusqu'au bout.
Il n'a pas suivi jusqu'au bout, et c'est vraiment décousu. Mais il y a tout de même des caractéristiques déjà du roman futur, du roman populaire, tel que par exemple le personnage de François Goulin, l'immonde, si je puis dire, qui traîne partout sa guillotine, et qu'on retrouve d'ailleurs en partie dans le Cibourdin de Hugo en 93. Mais pas pour les mêmes motifs. Ah, chez Cibourdin, c'est pour le bon motif, chez l'autre, ce sont des motifs plutôt de bas étage. Politiquement, d'ailleurs, Dumas n'est pas un homme tranché. Je dirais qu'il est plutôt opportuniste et que son idée est une idée qui va réapparaître plus tard dans beaucoup de romans historiques parlant des chouans, c'est qu'il voudrait la réunion des blancs et des bleus. Disons que ce sont tous de bons Français, et il les oppose alors aux gens qui exagèrent, soit dans le sens des bleus, soit dans le sens des blancs, soit dans le sens des chouans. Il y a une nouvelle de Ponson du Terrail qui parle des chouans aussi. Et il faut dire que Ponson du Terrail, lorsqu'il écrit des nouvelles, soigne mieux son style que quand il écrit des romans, peut-être parce qu'il avait plus le temps, j'en sais rien.
Et puis il y a un roman comme Rocambole, Le Club des Valets de Cœur, ça n'en finit pas. Il y a la fatigue apparaît, certainement.
Probablement. La nouvelle s'appelle Le Page de Napoléon. C'est une nouvelle qui, précisément, elle aussi, met l'accent sur l'Union française. Napoléon veut absolument rassembler tous les aristocrates épars dans toute l'Europe. Les nobles de la vieille France renaclent, ils fanatisent les paysans à l'aide des prêtres, les femmes prient, fabriquent des cartouches, etc. Et Napoléon se dit, moi, il me faut ces hommes. Et à la suite d'une histoire que je vous passe de l'assaut d'un château, un des enfants parvient à s'échapper et est recueilli par les Bleus. Cet enfant va faire carrière dans l'armée française, fera une très belle carrière, pas pour Napoléon, mais pour la France. Et il restera fidèle jusqu'à l'île d'Elbe comprise, pour la France aussi. Et la dernière phrase de la nouvelle, elle est très simple. « Quels hommes ?» murmura Napoléon.
Thank you. Nous ne voulions pas en parler parce que nous estimions que Dumas père avait été récupéré par la littérature, mais je crois quand même, Gilbert Sigaud, qu'il faut en arriver là. Il faut quand même parler de Dumas, feuilletoniste.
Oui, pour des tas de raisons. Quand on dit qu'il a été récupéré par la littérature, c'est une façon de parler, parce qu'il est à la fois un grand écrivain français, en effet considéré comme tel, il figure dans la Pléiade, mais il reste aussi un romancier populaire qui est lu par tout le monde. Pas plus tard qu'avant-hier, une dame que je connais dans mon petit village et qui est certainement une lectrice de romans populaires était plongée dans les 45. Les éditions de Dumas sont innombrables, sous toutes les formes. On en a même refait récemment en Suisse en petits fascicules, tout à fait du genre de ceux que Fayard avait mis en... Fayard ou un autre, ou Ferenczi, je ne sais plus, avait mis en honneur. Donc Dumas est vraiment un cas à part. Du reste, vous savez, il y a beaucoup de cas à part. Hein, dans le moment, je crois que le plus sérieux, si on voulait faire tous ensemble, tous tels qu'on est là, une histoire du roman populaire, je crois que la première démarche, ce serait de faire chacun une monographie sur un auteur. Et après, on verrait ce qu'il y a de commun, ce qui les lie à d'autres ou ce qui les sépare d'autres. Il est évident qu'entre Ponson du Terrail, par exemple, et Dumas, il y a quelques points communs. Pas beaucoup, mais il y en a.
Lesquels, par exemple ?
Oh, l'abondance de la longueur des textes, et puis...
L'abondance de la production.
L'abondance de la production. Encore Ponson du Terrail, vous savez, il en a fait beaucoup moins qu'on ne dit, hein, finalement, parce qu'il est mort jeune. Il a beaucoup écrit, mais il est mort jeune. Tandis que Dumas, c'est beaucoup plus considérable. Mais aussi le sens du découpage du feuilleton. Ils avaient très bien... respecter le fameux « à suivre » inventé, oui. Sauf erreur, ou par Girardin ou par Véron, je ne me souviens plus lequel des deux. Bon, pour en revenir à Dumas, il est aussi important du côté du roman populaire, parce que vous le savez tous, du reste ça vous saute aux yeux, il est tout de même le véritable créateur du roman historique. Je sais bien qu'il y en a eu d'autres avant. Et M. Martin a cité ceux qui, entre 1800 ou 1795 ou 1790, et Dumas, les débuts de Dumas dans le roman sont de 1830-31, on bâtit les bases du roman historique français. Parce que, alors, ne parlons pas de Walter Scott, bien entendu, qui est le monument et le véritable père, comme Corneille était le père de la tragédie au XVIIe siècle, disons. Walter Scott est le père du roman historique moderne. On court que tout cela. Ça demanderait à être nuancé mille fois. Il y a un certain auteur du XVIIIe siècle qui s'appelle De Comminges et qui a écrit des romans historiques. Baculard d'Arnaud a dû écrire aussi un roman historique. Vous savez, la recherche des sources ou des origines des gens, il faut être très sceptique, avoir beaucoup d'esprit critique, parce que finalement, on sait bien que tout est dans tout. Et après tout, Hérodote a écrit un roman historique, on n'en sortirait plus. Donc, un véritable roman historique français, moderne, qui a vraiment eu un impact sur le public, c'est celui de Dumas père. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Naturellement, il y a le cas de Vigny. Vigny a écrit un très beau roman historique, c'est Saint-Mars, oui. Et puis, il y en a eu d'autres. Mais enfin, quand même, Dumas père, enlever Dumas père, et que serait le roman historique français
au 19e
siècle ? Peut-être même n'aurait-il pas eu tous ces développements, parce que je pense que c'est à la lecture de Dumas père, je suis même sûr que c'est à la lecture de Dumas père que d'innombrables auteurs qui ont écrit de très bons romans historiques, par exemple Zévaco, dont la série des Pardaillans est un chef-d'œuvre dans ce genre-là, à condition de ne pas être trop exigeant sur l'histoire. Encore, il est moins sérieux en histoire que Dumas. Et Dumas en histoire est diversement sérieux. Il est fait que certains romans de Dumas suivent l'histoire de très près, ou ont en tous les cas un fond de tableau historique brossé avec beaucoup de sérieux. Et j'ai étudié particulièrement Les Trois Mousquetaires 20 ans après. Eh bien, je vous assure, vraiment de près, quoi, pour la Pléiade, justement, en faisant une note toutes les fois qu'il y a un événement historique évoqué. Eh bien, le nombre de sources sérieuses, contrôlées, où on peut voir que vraiment Dumas est allé chercher, est considérable. Il avait du reste écrit un peu avant et écrit en même temps, ou écrit en même temps aussi peut-être. Ne taquinons pas trop la chronologie, parce qu'en ce qui concerne Dumas, est très difficile à établir. On n'a pas beaucoup de ses manuscrits, etc. Bon, il avait écrit un gros livre de vulgarisation historique qui s'appelle « Louis XIV et son siècle ». Et il a continué après. Il en a fait sur Louis XV, sur Louis XVI. Or, ces livres de compilation qui se servent des mémoires publiées dans les grandes collections historiques à partir de 1820, qui détermine aussi la carrière de Dumas. Parce que s'il n'avait pas eu ces centaines, je dis bien, de volumes, des grandes collections historiques, il y en a plusieurs, je ne vais pas les définir, on n'en sortirait pas, qui ont paru en France entre 1820 et 1835 ou 40, s'il ne les avait pas eus sur sa table, il n'aurait pas pu écrire ses romans historiques. Où est-ce qu'il serait allé chercher la documentation? Oui. L'histoire de France d'Anquetil, c'était rien.
Il fallait le dire, justement. N'oublions pas tout de même que c'est une page d'Anquetil qui lui a donné la première lumière de l'idée d'Henri III et sa cour.
Oui, mais enfin, Henri III et sa cour, c'est une pièce, elle est de 1829, elle est antérieure à ses romans historiques. Il avait le goût de l'histoire, il n'y a pas de doute. Et Anquetil, bon, ça a compté comme un détonateur. Mais après, il fallait nourrir ses innombrables romans. Donc, c'est ce Louis XIV et son siècle, vous l'ouvrez et vous voyez chapitre par chapitre, je ne plaisante pas, défiler tout le fond de tableau. Il n'y a que ce terme-là qui soit juste, historique, des Trois Mousquetaires de 20 ans après et du Vicomte de Bragelonne. Or, ces compilations historiques, je le signale en passant, à ceux que le cas Dumas Maquet intéresse, Maquet ne les a jamais revendiquées. Alors, il est très difficile à ce moment-là, parce que voilà, ça c'est un point, il n'est jamais revendiqué, ni dans ses lettres, ni dans les procès qu'il a fait à Dumas, il n'en a pas parlé. Donc, c'est vrai, c'est Dumas qui tout seul a fait ça. Il avait de la main gauche, il feuilletait ses chroniques, les mémoires de Madame X ou les mémoires de Louis XIV, enfin, soi-disant mémoires de Louis XIV, etc. Et il faisait une chronique du règne en mettant des titres de chapitres et des sous-titres et en racontant ça de façon très vive. Une fois que c'était terminé, il avait la documentation de son livre. Donc on ne peut pas dire que Maquet lui apportait toute l'histoire, que Dumas était un ignorant, Maquet un génie. Maquet était un modeste licencié d'histoire, hein, n'en faisant pas un Michelet. N'exagérons pas. On simplifie énormément le cas Maquet-Dumas parce que c'est toujours excitant de dire qu'un auteur n'a pas écrit ses livres. On l'a dit pour beaucoup de contemporains et dans un cas particulier, je suis bien placé pour savoir que c'est pas vrai. Passons. Revenons-en à Dumas. Dumas feuilletoniste, il commence comme les autres, hein, un petit peu après Eugène Sue, après les Mystères de Paris, et il a donné vraiment tous ses grands romans à partir de 1840 aux journaux et quelquefois à plusieurs journaux à la fois. Et c'est là évidemment que se placent dans certains cas des collaborations plus que certaines et quelquefois un peu plus que des collaborations comme dans le cas d'Ascanio qui a vraiment, dont on a l'impression, on peut pas avoir d'autre chose qu'une impression, mais quand même en voyant les textes, quand on a l'habitude de lire Dumas, on reconnaît son style. Or dans Ascanio, c'est vraiment pas tellement son style. Or comme Ascanio est une histoire d'orfèvre, ça a été écrit par Meurice qui était d'une célèbre famille d'orfèvres, etc. Il n'y a pas de doute. Dumas y a probablement coupé des choses, rajouté du dialogue, jeté du sable.
La sauce Dumas, quoi.
Sauce Dumas ou du sable d'or, si vous voulez dire, sur la page. Vous comprenez, pour que ça brille, et puis des modestes prix et tout ça. Mais quand même, Ascanio n'est pas un grand Dumas.
Jacques Van Herpe, nous allons vous soumettre à la petite épreuve à laquelle nous soumettons tous nos invités. Pourriez-vous nous donner votre définition du roman populaire?
Ma définition du roman populaire va être la suivante. Un auteur populaire est un auteur que les éditeurs ne respectent pas. Vous prenez un Flaubert, on vous publiera scrupuleusement Flaubert. Vous prenez un auteur populaire, les éditeurs trouveront tout normal de le couper, de le tripatouiller, de le remettre au goût du jour en remplaçant les fiacres par des taxis et ainsi de suite, comme c'est arrivé pour certaines éditions de Marcel Alain et de Fantomas. On prendra Zévaco, on l'amputera d'un cinquième. On prendra Féval, on ne se ferait pas scrupule de couper. À ce compte-là, je signale que Tolstoï et Hugo sont des auteurs populaires comme Balzac, parce qu'il suffit de voir certaines éditions qui existent de Balzac, de Tolstoï et de Hugo, qu'on a tripatouillé de la même façon. Et je crois d'ailleurs que Tolstoï et Hugo, certainement, et Balzac ne sont pas tellement éloignés des auteurs populaires, simplement par la profondeur de leurs personnages, ou le lyrisme chez Hugo, que l'on ne retrouve pas chez Jules Marie, par exemple, ou de Courcelles, mais ils sont de la même classe, ce sont tous les successeurs du roman romantique.
On trouve dans les belles années du roman populaire quelques auteurs marquants dans le domaine de l'aventure terrestre ou maritime et de l'exotisme. L'un d'eux, Gustave Aimard, a beaucoup exploré de sa plume le monde nouveau. À votre avis, Jacques Van Herpe, que recherchait le lecteur de Gustave Aimard et que trouvait-il dans ses livres?
Le lecteur de Gustave Aimard recherchait ce que recherche de nos jours l'amateur de western. Il cherchait l'aventure et le dépaysement. Il ne faut pas oublier que la voie avait été ouverte par Fenimore Cooper et Le Dernier des Mohicans. Et pourquoi ne pas le dire, par François René de Chateaubriand avec Atala.
C'était le monde de l'aventure. Alors, Gustave Aimard a raconté, d'une part, la guerre franco-anglaise au Canada, avec la Belle Rivière et cette série. Des romans historiques comme La Grande Flibuste, qui rapporte les aventures des flibustiers autour de l'Ononois, Michel Vasco et Montbard et Roch le Brésilien. Plus alors, des romans comme Les Trappeurs de l'Arkansas qui sont du début de la conquête de l'Ouest par les Américains. C'est le western de l'époque de Davy Crockett. Plus des romans qui ont trait au Mexique et alors des romans qui ont trait au Chili avec Le Grand Chef des Aucas qui suivent la ligne de la résistance des Araucans contre les Espagnols. C'est cela que l'on cherchait.
Tirer à la ligne fut le plus souvent un parti pris de romancier populaire. Mais il faut reconnaître que, lorsqu'ils en avaient le prétexte, plus ou moins justifié d'ailleurs, ils l'exploitaient avec une remarquable bonne conscience. Prenons par exemple Les Rôdeurs de frontières de Gustave Aimard. L'auteur y présente quelques types d'individus caractéristiques de l'époque, et aussi du roman d'aventure. Le coureur des bois, canadien d'origine française, courageux et au cœur pur. Le méchant américain marchand d'esclaves, le bon noir dévoué, et aussi l'indien rusé et cruel. Dans le même roman, Aimard met à profit la rencontre fortuite de l'aventurier John Davis et d'un jeune soldat ambitieux pour accentuer la lenteur des dialogues. Les deux hommes ne se connaissent pas, ils se méfient l'un de l'autre, et leur prudence est du même coup l'occasion de tirer à la ligne.
Paraissait homme de précaution, Caballero.
C'est un souvenir de mon ancien métier de chasseur. Les soldats ne sont pas aussi soigneux que moi, tant s'en faut.
Plus je vous observe, plus il me semble extraordinaire que vous ayez pu vous déterminer à adopter un métier aussi peu lucratif que celui de soldat.
Que voulez-vous, c'est la fatalité, puis l'impossibilité d'envoyer l'uniforme au diable. Du reste, j'ai l'espoir de passer cabot à Brunan.
C'est un beau grade, d'après ce que j'ai entendu dire. La paye doit être bonne.
Ce ne serait pas mauvais si nous la recevions.
Comment, si vous la receviez?
Oui. Il paraît que le gouvernement mexicain n'est pas riche.
Alors, vous lui faites crédit?
Il le faut bien.
Diable, diable. Mais pardon de vous adresser toutes ces questions qui doivent vous paraître indiscrètes.
Nullement, ne vous gênez pas. Nous causons amicalement.
Comment vivez-vous?
Voilà. Nous avons le casuel.
Le casuel? Qu'est-ce que c'est que cela?
Vous ne comprenez pas?
Je vous l'avoue.
Je vais vous l'expliquer.
Vous me ferez plaisir.
Il arrive que notre capitaine ou notre général nous charge d'une mission.
Très bien.
Cette mission est payée à part. Plus elle est dangereuse, plus la somme est forte.
Toujours à crédit?
Non, diable, d'avance.
Ceci est mieux.
N'est-ce pas?
Et avez-vous quelquefois de ces missions?
Souvent, surtout en temps de pronunciamento.
Hein? Mais voilà près d'un an qu'aucun général ne s'est prononcé.
Malheureusement.
Alors vous êtes à sec?
Pas tout à fait.
Vous avez eu des missions?
J'en ai une en ce moment.
Bien payée?
Convenablement.
Y a-t-il indiscrétion à vous demander combien?
J'ai reçu 25 onces.
Christo! La somme est jolie. La mission doit être dangereuse pour être tarifiée si haut.
Elle n'est pas sans péril.
Prenez garde alors.
Merci, mais je ne risque pas grand-chose. Il ne s'agit que de remettre une lettre.
Ah, il est vrai qu'une lettre...
Oh, celle-ci est plus importante que vous ne le supposez.
Bon.
Ma foi, oui. Il s'agit de plusieurs millions.
Comment dites-vous cela?
Oui. Le général Rubio, dont je suis l'assistante, m'a expédié en estafette, au-devant du capitaine Melendez, qui escorte en ce moment un convoi.
Vous croyez?
Caray, si je crois, puisque je vous dis que j'ai sur moi la lettre.
C'est juste. Mais... dans quel but le général écrit-il au capitaine?
Vous voulez jouer carte sur table?
Bon. Je vois que nous pourrons nous entendre.
Pourquoi pas? Ce sont les conditions qui font tout entre caballeros. Ainsi, nous jouons franc jeu, hein?
C'est convenu.
Avouez que vous voudriez bien connaître le contenu de cette lettre.
Simple curiosité, je vous le jure.
Par Dieu, j'en suis convaincu. Eh bien, il ne tient qu'à vous de le savoir.
Bah, ce ne sera pas long. Alors voyons vos conditions.
Elles sont simples.
Dites toujours.
Regardez-moi bien. Vous ne me reconnaissez pas?
Ma foi, non.
Cela me prouve que j'ai plus de mémoire que vous.
C'est possible.
Moi, je vous reconnais.
Vous?
Parfaitement.
Vous m'aurez vu quelque part.
C'est probable, mais ceci importe peu. Le principal, c'est que je sache qui vous êtes.
Oh, un simple chasseur.
Et un ami intime de celui qu'on nomme le Jaguar.
Hein?
Ne vous effarouchiez pas pour si peu. Répondez-moi seulement. Est-ce vrai ou non?
C'est vrai. De vous à moi, je ne vois pas pourquoi je m'en défendrais.
Vous auriez tort. Où est le Jaguar en ce moment?
Je ne sais pas.
C'est-à-dire que vous ne voulez pas me le dire?
Vous avez deviné.
Bien. Pourriez-vous, si je le désirais, me conduire auprès de lui?
Je n'y vois pas d'inconvénient. Si l'affaire en vaut la peine.
Ne vous ai-je pas dit qu'il s'agissait de millions?
Ainsi fait, mais vous ne me l'avez pas prouvé.
Et c'est cette preuve que vous voulez que je vous donne?
Pas autre chose.
C'est assez difficile.
Mais non.
Comment ça?
Mon Dieu, je suis un bon compagnon, moi. Je ne veux que mettre ma responsabilité à couvert. Montrez-moi la lettre. Je n'en demande pas davantage.
Et vous serez satisfait?
D'autant plus que je connais l'écriture du général.
Ah, alors c'est parfait. Regardez.
Oui?
C'est bien l'écriture du général, n'est-ce pas?
Oui.
Maintenant, consentez-vous à me conduire auprès du Jaguar?
Quand vous voudrez.
Tout de suite, alors.
Tout de suite, soit.
Les romanciers d'aventure, en cette fin du XIXe siècle, accordent à la femme un rôle actif dans le déroulement de l'action. Voici comment Gustave Aimard nous l'a décrit, une silhouette que les films américains des années 20 devaient nous offrir à des centaines d'exemplaires.
Le capitaine Watt avait réuni tous les membres de la colonie devant la tour. Le nombre des combattants s'élevait à 62 en comptant les femmes. Les dames européennes peuvent trouver singulier que nous comptions les femmes au nombre des combattants. En effet, dans le vieux monde, le temps des marfilles et des bradamantes est heureusement passé pour toujours, et le beau sexe, grâce au progrès constant de la civilisation, n'en est plus réduit à faire assaut de courage avec les hommes. Dans l'Amérique septentrionale, où se passait notre histoire, et même aujourd'hui, dans les prairies et sur les défrichements, il n'en est pas ainsi. Souvent, lorsque le cri de guerre des Indiens vient subitement résonner aux oreilles des pionniers, les femmes sont contraintes d'abandonner les travaux de leur sexe pour saisir un rifle entre leurs mains délicates et se porter résolument à la défense de la communauté. Nous pourrions au besoin citer plusieurs de ces héroïnes aux douze yeux et aux regards d'ange qui, dans l'occasion, ont vaillamment fait leur devoir de soldats et ont combattu comme de vrais démons contre les Indiens. Mistress Watt n'était pas une héroïne, tant s'en faut, mais elle était fille et femme de soldats. Elle était née et avait été élevée sur la frontière indienne. Plusieurs fois, elle avait senti l'odeur de la poudre et vu le sang couler. De plus, elle était mère. Il s'agissait de défendre ses enfants. Toute sa craintive timidité avait disparu pour faire place à une résolution froide et énergique.
Et avec Gustave Aimard, il y avait aussi Louis Bousnard, avec toute sa série des gamins de Paris en Océanie, autour du monde, en Amérique.
Oui, alors là, le but d'abord de Bousnard n'était pas le même. Bousnard voulait marcher sur les traces de Jules Verne et faire des romans didactiques. Et je dois dire que quand on prend un livre de Bousnard, un quart, si pas un tiers, est composé de cours de géographie, de zoologie et de botanique. Là également, il a centré son livre sur l'aventure. Et ses meilleurs ouvrages, d'ailleurs, ne sont pas le Gamin de Paris. Ce sont des ouvrages comme Capitaine Casse-cou, où il épouse la cause des bourgs contre les Anglais, et ouvrages qui sont d'ailleurs violemment anti-anglais, comme il est difficile de le concevoir encore de nos jours. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que Bousnard avait été chargé de mission en Guyane, et que lorsqu'il écrit Les Robinsons de la Guyane, il parle de choses qu'il a vues.
Anodine, la lecture d'un roman populaire? Pas souvent. Il faut prendre garde à certaines échappées de la pensée de l'auteur qui, tout à coup, se livre et perd le contrôle de son texte romanesque. Témoin, cette explosion de racisme chez Bousnard dans Les secrets de Monsieur Synthèse.
Chacun reçut l'ordre de ne jamais quitter ses armes, ni le jour, ni la nuit. Surtout la nuit. L'ordre portait « Le quart se fera le revolver à la ceinture, la carabine à répétition se trouvera en permanence à portée de l'homme dormant dans son hamac. » Enfin, des mitrailleuses furent braquées en arrière des postes occupés par les Célestes, de façon à pouvoir prendre en enfilade toute cette partie intérieure du navire en cas de révolte.
Ces dispositions préventives, cet armement formidable, cette façon de parquer des travailleurs inoffensifs feront peut-être pousser les hauts cris aux philanthropes de cabinet dont les explorations se sont étendues jusqu'au chemin de fer de Grande Ceinture. Mais ceux qui se sont trouvés entre le ciel et l'eau à quelques 500 lieues de partout avec un chargement de céleste sur un navire monté par un équipage relativement peu nombreux en reconnaîtront l'absolue nécessité. Que l'on ne s'étonne donc pas d'un pareil luxe de précaution rendu, hélas, indispensable par la nature elle-même de l'homme jaune. Le Chinois est en effet un être absolument dissemblable de nous, n'en déplaise aux théoriciens prêchant à outrance l'égalité entre des hommes que différencient complètement les coutumes, la race, les idées et même la structure anatomique. Pour qu'il y ait égalité, il faudrait qu'il y eût au moins équivalence physique et surtout morale. Allez-vous comparer le frère jaune à un artisan parisien, à un laboureur beauceron, à un vigneron languedocien? Mais l'esthétique s'y oppose formellement, ce qui d'ailleurs est la moindre des choses. Hâtons-nous donc d'ajouter que ce qui est seulement au physique une incompatibilité, devient au moral une impossibilité. Incapable d'instincts généreux, dominé par la cupidité qui semble son unique raison d'exister, ce bonhomme, à face camarde, ce trotte-menu bouffi, au regard oblique, d'apparence inoffensive, onctueuse jusqu'à la viscosité, professe pour le blanc, quel qu'il soit, une haine qui n'a d'égal que son mépris. Orgueilleux jusqu'à la démence, voleur jusqu'au génie, cupide jusqu'à l'infamie, il saura, quand son intérêt se trouve en jeu, devenir servile jusqu'à l'écœurement. Pour ce meurtre de faim, pour cet esclave qui râle sous l'abominable despotisme des mandarins, le blanc n'est qu'une proie, et il essaiera de l'accaparer par tous les moyens possibles. Une fois mis en présence du blanc, rien ne rebute son opiniâtreté, rien ne le sollicite en dehors de son âpreté. Il n'a qu'un seul but, acquérir à tout prix. Quels que soient les expédients, dût-il accomplir les besognes les plus répugnantes, recourir aux métiers les plus abjects. C'est pour lui surtout que l'argent n'a pas d'odeur. Mais attendez qu'il possède un pécule plus ou moins important et vous allez assister à une curieuse transformation. Du jour au lendemain, ce plat valet change d'attitude. Fort de l'appui de ses compatriotes qui, par exemple, en Australie, et surtout dans l'Amérique du Nord, pullulent comme des insectes parasitaires, il devient un personnage, fait en grand l'usure, accapare, affame, met un pays tout entier en coupe réglée, en draine toutes les richesses, en absorbe tous les produits. C'est alors que son arrogance a beau jeu, c'est alors que le barbare, qui l'a fraternellement accueilli, comprend sa faute, en se voyant bafoué, honni, dépossédé. Le blanc a-t-il été bon pour le chinois? C'est de la faiblesse. A-t-il eu pour lui de la condescendance? C'est de la peur. L'a-t-il traité en égal? Il a encouru son mépris. Il ne suffit pas, vis-à-vis du céleste, d'être scrupuleux observateur des conditions débattues et convenues, en principe, que lui importe sa signature au bas d'un traité, que lui importe la parole donnée. Sa seule pensée est de se soustraire à l'engagement contracté, surtout si l'engagiste semble de bonne composition. Malheur, alors, à qui n'est pas réellement fort. Car ce carottier indigne sera susceptible, s'il se trouve en nombre, de devenir un assassin. Tuer un blanc, la belle affaire. À la condition toutefois de pouvoir faire le coup sans se compromettre, ni pour le présent, ni pour l'avenir.
Paul Divoy est surtout connu du grand public pour son fameux Lavarède qui fit le tour du monde avec 5 sous. Jacques Van Herpe, trouvez-vous que ce livre mérite tout le succès qu'on lui a fait?
Mais oui, parce que, d'abord à l'époque, les Globe-Trotters ne manquaient pas. C'était chaque semaine ou chaque mois, il en partait 2 ou 3 pour faire le tour du monde à pied.
Avec à peine plus de 5 sous.
Avec à peine plus de 5 sous en gagnant leur vie. Nous avons eu, après cette guerre-ci, des personnages comme Alain Leprel, par exemple, qui ont fait le tour du monde, comme il disait, sur un billet de 1000, en gagnant leur argent au fur et à mesure. La nouvelle génération des routards s'apparente à Lavarède. Le personnage vit toujours.
Les romans d'aventure ont souvent, pour point de départ, les dispositions pour le moins étranges d'un testament. Testament holographe, comme celui que rédigea M. Jean Richard, le cousin du célèbre Lavarède, le Lavarède des 5 sous.
Monsieur Lavarède, Monsieur Merleton, Miss Auret, J'ai l'honneur et le regret de vous faire part du décès de l'un de mes meilleurs clients, propriétaire du château de Marsonnet dans la Côte d'Or, de deux maisons à Paris, rue Aubert et boulevard Malesherbes, enfin du domaine de Bassett Castle dans le Devonshire. J'ai nommé le regretté monsieur Jean Richard.
Mon cousin.
Mon voisin.
Oui, conformément aux intentions du défunt, je vous ai convoqué ici pour entendre la lecture de son testament holographe dûment enregistré et paraphé. En y comprenant les maisons et propriétés ci-dessus, les valeurs en rente, actions et obligations, ainsi que l'argent liquide déposé chez mon notaire, ma fortune s'élève à 4 millions environ. Comme je n'ai ni frère, ni femme, ni enfant, ni ascendant, ni descendant direct, mon unique héritier est mon cousin Armand Lavarède.
Vous dites ?
Attendez. Mais je ne l'institue mon légataire universel qu'à une condition expresse. Ce garçon ne connaît pas la valeur de l'argent. Il prodiguerait ma fortune, la jetterait à tous les vents, ainsi qu'il advint dans un voyage d'agrément que nous fîmes ensemble à Boulogne-sur-Mer. Cela lui coûta 2000 francs, tandis que moi je dépensais 164 francs et 85 centimes. Donc Lavarède partira de Paris avec 5 sous dans sa poche. Hein? Et s'il veut entrer en possession de ma fortune, il devra faire le tour du monde sans avoir une autre somme à sa disposition. Il sera ainsi contraint d'être économe. Je lui donne un an, jour pour jour, pour accomplir cette clause.
Ce cher cousin.
Nécessairement, il devra être surveillé. Et je désigne pour l'accompagner un homme qui aura un intérêt personnel et considérable à remplir sa mission. Mon voisin de Bassett Castle, Sir Merlitton, que j'institue mon légataire universel au lieu et place d'Armand Lavarède si celui-ci n'accomplit pas rigoureusement la condition prescrite.
Comment moi je connaissais à peine c'est original. Et nous étions en procès.
Sir Merlitton est un homme à cheval sur ses droits, je le sais pour avoir eu quelques différends avec lui. Par conséquent, en lui créant ce droit conditionnel à ma fortune, je suis sûr qu'il saura le faire valoir. Il est entendu qu'il perd tout droit à mon héritage s'il commet un acte de trahison envers ce pauvre Lavarède. Il doit le surveiller simplement et honnêtement.
C'est très drôle.
Mais j'avoue que ce n'est pas sans un malin plaisir que je vois d'avance mon beau cousin, si dépensier, inéluctablement déshérité.
Mon père, vous ne pouvez pas spolier ce jeune homme. Ne vient-il pas à l'instant de me sauver la vie?
Oh, mademoiselle, n'exagérons rien.
Oh, mais si! J'allais me faire écraser par le fioc quand vous vous êtes précipité. C'était juste en face de la maison d'ici.
Ma fille, les affaires sont les affaires. Il ne serait pas pratique de perdre cette fortune.
Mais comment ça perdre?
Il est impossible, non seulement de faire le tour du monde, mais même d'aller de Paris à Londres avec 25 centimes.
Ainsi, vous n'y voulez pas renoncer?
Mais mademoiselle, monsieur votre père renoncerait même à accepter la clause conditionnelle qui le concerne. Que monsieur Lavarède ne pourrait pas, pour cela, entrer en possession d'héritage. Il n'y a droit que sous certaines réserves expressément indiquées. Et à moins que lui-même n'y renonce.
Ah, vous plaisantez? Comment? Voilà des millions qui tombent du ciel et vous croyez que je ne ferai rien pour les gagner? D'abord, ce qu'exige mon cousin n'est pas si difficile.
Oh, vous voulez essayer? Soit, je suis riche, mon carnet de chèques ne me quitte jamais. Je ne vous lâcherai pas d'un instant. Et nous verrons bien si, avant deux jours, je n'ai pas gagné la partie.
J'accepte le duel. Maître, avez-vous sous la main un indicateur de chemin de fer?
Oui. En voilà un.
Merci. Voyons, il y a demain, 26 mars, à 9h du matin, un train pour Bordeaux, en correspondance avec un transatlantique à destination de l'Amérique. Sir.
Yes.
Demain matin, je vous attendrai à la gare d'Orléans. Je dois être de retour dans cette étude le 25 mars de l'an prochain, avant la fermeture des bureaux.
Au plus tard, monsieur.
Parfait! J'y serai!
Abandonnons Lavared à son sort. Au bout de son tour du monde accompli avec bravoure et humour, l'attendent la fortune et l'amour, juste dédommagement de ses périlleuses aventures. Et concluons de nouveau par la formule consacrée, la suite au prochain numéro, avec au sommaire le roman social et le roman dit « Demeure ».
Roman d'aventure de Cap et d'épée par Pierre Duprier, Serge Martel et Jean-Jacques Vierne, c'était une émission diffusée la première fois le 11 août 1976.